On est aujourd'hui le dimanche 21 Iyar, on est le 26 mai et le cours sera aujourd'hui pour la guérison totale et définitive d'Avram Ben Sultana et on reprend aujourd'hui notre premier cours de la semaine. On continue le deuxième conte de Rabbi Nachman, un très très bref résumé. En vérité, avant le résumé, je tiens à vous dire qu'il faut absolument, absolument, absolument écouter, voire même réécouter et réécouter plusieurs fois les premiers cours qui ont été déjà donnés sur ce deuxième conte. Et malgré tout, on continue. Et un bref résumé. On a expliqué que finalement, le fils du roi et la fille de l'empereur ont décidé de s'unir, ont décidé d'être ensemble afin de tenir leurs promesses, mais ils se rendent compte que pour l'instant, en tous les cas, car à la fin de l'histoire, ils arriveront à réaliser le rêve impossible d'être ensemble sur terre, mais pour l'instant, ils comprennent qu'il est absolument impossible de pouvoir véritablement s'unir sur terre, alors ils décident de s'enfuir et de partir sur mer. Et ils vont passer une grande partie de leur vie, c'est-à-dire de cette histoire, sur la mer. Alors quel est le décodage? À quoi cela fait-il allusion? On a expliqué dans le cours précédent que la terre fait allusion à la réalisation concrète de cette union finalement entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Cette union qui est concrétisé, qui est réalisé dans ce monde et accepté par ce monde, tandis que la mer fait allusion à l'union entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, mais d'une manière qui est encore théorique, qui est plus dans l'idée que dans la réalisation. Dans un autre langage, plus au niveau de l'étude que dans la réalisation concrète au niveau de l'action. Et j'explique. Ou plutôt je réexplique avant de continuer l'histoire. Comme on le sait, même dans la Torah elle-même, c'est-à-dire dans l'étude, dans l'idée, ce que ici on appelle la mer, car comme on le sait au niveau du décodage des maîtres d'Israël, la mer fait allusion justement à la Chochma, à la sagesse, à la Torah, ou plutôt à la véritable sagesse qui est dans la Torah, qui nous enseigne que finalement le but ultime de toute la création c'est d'unir dans ce monde, le monde d'en haut et le monde d'en bas, l'âme et le corps, Dieu et son monde, la dimension spirituelle et la dimension matérielle, comme on en a déjà largement parlé d'abord dans le premier conte et depuis que nous avons commencé ce deuxième conte. Mais même dans la Torah elle-même, il y a énormément d'autres facettes dans la Torah qui ne s'intéresse pas directement à ce sujet-là et qui ne voit pas dans ce sujet-là le but ultime du don de la Torah et finalement le but ultime de toute l'histoire. Il y a d'autres facettes où on s'intéresse à d'autres aspects de la Torah et malheureusement on passe complètement à côté du but ultime et du pourquoi du don de la Torah, du pourquoi de la création et finalement du pourquoi de l'histoire. Et ce qui fait que même au niveau de la Torah, énormément d'enseignants, de maîtres, pas forcément des maîtres authentiques, vont avoir une étude et surtout un enseignement qui ne nous permettront pas d'arriver véritablement au véritable pourquoi du don de la Torah et le véritable pourquoi de toute l'histoire humaine. La mer, au contraire, fait allusion à l'essence réelle de la Torah, à la vérité vraie de la Torah, cette partie de la Torah qui dévoile la sagesse authentique et qui nous explique que tout le but de la Torah, c'est d'arriver à unir le fils du roi avec la fille de l'empereur. Mais d'un autre côté, pendant toute l'histoire, cette vérité vraie est sur la mer, c'est-à-dire dans un monde où on ne peut pas véritablement vivre, où on ne peut rien réaliser, où on est en attente de pouvoir revenir au port, c'est-à-dire de pouvoir à nouveau accoster le bateau sur terre et pouvoir descendre du bateau et pouvoir véritablement réaliser. Alors c'est ce dont le fils du roi et la fille de l'empereur prennent conscience. On ne peut pas ne pas s'unir, c'est-à-dire on ne peut pas laisser la Torah aborder toutes sortes de sujets qui ne touchent pas véritablement le but et le pourquoi réel du don de la Torah, le pourquoi réel du projet divin, pourquoi a-t-il créé le monde et quel est le sens de l'histoire. On ne peut pas continuer finalement à vivre séparés l'un de l'autre. Il faut absolument que cette union devienne le sujet principal de la Torah. Et c'est la raison pour laquelle il décide de partir sur un bateau, de partir sur l'océan. Encore une fois, le décodage est que petit à petit, dans la Torah elle-même, commence à se dévoiler le véritable but, le véritable sens des choses. Mais d'un autre côté, ils savent très bien que si c'est pour rester une vérité théorique, ce n'est pas bon non plus. Parce que le but ultime de la Torah, c'est de se réaliser dans ce monde, c'est-à-dire de construire ce monde au niveau de cette unité entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, ainsi qu'il est clairement révélé par les prophètes au sujet de la délivrance finale, en ce jour où Dieu sera un et son nom sera un, c'est-à-dire que l'unité se réalisera véritablement sur terre. Et d'où on sait que l'on parle de cette unité sur terre, parce que le verset juste avant dit « Bayom ahou yeh Hashem le melech al kol haaretz » En ce jour, Dieu sera roi sur la terre et son nom sera un et lui sera un, c'est-à-dire que l'unité doit se réaliser dans ce monde sur la terre. Alors, je vais juste relire le passage qui a terminé le cours précédent. « Aharkar ityatsu » donc ils ont décidé « Sheyanichu lifrosh atzma malayam » comprenant que l'histoire, le temps ne permettait pas encore leur union sur terre, au moins on va s'unir sur mer, c'est-à-dire dans la Torah qui est encore théorique, qui ne peut pas se réaliser sur terre, ils prirent un bateau et ils s'enfuirent sur mer. Et finalement, ils restèrent un certain temps sur mer, mais comme ce sont, on pourrait dire, des gens authentiques et qui savent très bien qu'il est absolument interdit de s'endormir dans la théorie, de ne vivre que de belles idées et de beaux espoirs, Aharkar, au bout d'un certain temps, Ratsu le Karev Atzmam el Asapar, ils ont venu revenir sur terre. C'est-à-dire, ça c'est aussi le signe d'un maître authentique, lorsque justement il prend conscience du danger de rester uniquement dans l'étude, et de temps à autre, il essaye de voir si finalement il peut revenir sur terre. Est-ce qu'il peut faire véritablement avancer les choses dans ce monde? Parce que le but n'est pas de rester sur mer, ce n'est pas un endroit où l'on peut vivre. Le monde n'a pas été créé pour que les hommes vivent sur mer, c'est-à-dire dans la théorie. Le monde a été créé pour que les hommes puissent finalement faire descendre l'idée dans ce monde. Et c'est ce qui se passe ici, ce qui prouve que ce sont, on pourrait dire, des maîtres authentiques. Aharkar ratsu lekare vatsmam el asapar, ils ont décidé donc de retenter leur chance sur terre. Ubaou, la sapar, ils reviennent donc, ils accostent le bateau. Veayasham yahar. Et on va lire bien sûr un petit peu avant de décoder. Et ils accostent à un endroit où il y a une grande forêt. Vers Al-Khulesham, ils ont décidé d'aller vers la forêt. Vers la Kraabat, Keisar, Atabad, Venatnano. Ici, le texte n'explique pas pourquoi, mais il va se passer quelque chose d'étrange qu'il va falloir décoder. Au moment où ils se dirigent vers la forêt, la fille de l'empereur, qui représente la dimension matérielle, enlève sa bague et la confie au fils du roi, qui représente la dimension spirituelle. N'oublions pas que à l'école, comme on l'expliquait dans les cours précédents, ils s'étaient déjà engagés à vivre ensemble et le fils du roi avait donné une bague à la fille de l'empereur. Ve'ishachvasham. Et elle s'endormit dans la forêt. et la bague était dans les mains du fils du roi. Et puis, au bout d'un certain temps, le fils du roi remarqua que son épouse allait se réveiller. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a sorti la bague de sa poche et il l'a déposée près d'elle pour que quand elle se réveille, elle puisse à nouveau remettre la bague. Elle se réveilla. Ils se levèrent et décidèrent de repartir vers le bateau. Et ils repartirent vers le bateau. Betorkar, une fois qu'ils étaient déjà sur le bateau, Niskera, l'épouse, la fille de l'empereur, tout d'un coup se souvint chez Shachwata Baal Sham qu'elle vit qu'elle n'avait pas la bague au doigt. Elle demanda à son mari, le fils du roi, « Mais où est ma bague ?» Il lui raconta, « Écoute, je suis désolé, je l'ai déposée près de toi, lorsque j'ai senti que tu allais te réveiller, j'étais sûr que tu allais la voir et la mettre au doigt. Et finalement, malheureusement, tu l'as oubliée et moi aussi. Et donc maintenant, on se retrouve sans la bague. » Elle lui dit, il est hors de question que l'on s'en aille, que l'on quitte à nouveau la terre sans cette bague, parce que cette bague est la garantie comme quoi nous sommes unis, au moins sur mer, même si c'est dans un monde théorique. Non, tu retournes là-bas et je veux absolument que tu trouves la bague. Il accepta. Il est reparti. Le problème est, il n'arrive plus à retrouver l'endroit où finalement il a déposé la bague. Il s'est trompé et il est parti vers un autre endroit. Bien sûr, se trompant de chemin, il ne retrouve pas la bague. Il alla d'endroit en endroit, jusqu'au point qu'il se perde complètement, il ne retrouve plus son chemin pour revenir au bateau. Il était complètement perdu. Elle était restée sur le bateau. Elle voit que ça fait des heures que son mari ne revient pas. Elle dit, je vais aller le chercher. Venitet Gamken, elle aussi s'est complètement trompée de chemin. Vayahu Oler Vetoé, et lui continue à marcher en se trompant. Vei Alchale Vaksho, Venitet Gamken, Oler Vetoa, et elle aussi, elle continue à marcher et se trompe de plus en plus, se perd de plus en plus, pardon. Ahakara Aderer. Finalement, le fils du roi, tout d'un coup, remarqua un chemin qui apparemment menait à un endroit habité, parce que pour l'instant, ils étaient dans la partie de la terre qui était elle-même encore complètement inhabitée, comme on a vu, une forêt, on va expliquer dans quelques instants. Vers l'Ar-Yishuv, il prit ce chemin et il arriva à un endroit habité. Velo Yaloma La'asot, et là-bas, il ne connaissait personne, il ne savait pas quoi faire. Venaasa Mesharet, il proposa ses services pour devenir le serviteur de quelqu'un là-bas et finalement il devint un serviteur. Il est fils de roi, mais il devient un simple serviteur. Gami Aita Olechet Betoa, elle de son côté aussi avançait et était complètement perdue. Beishva Atzma, tout d'un coup elle se reprit en main. Sheteshev Etzelem a dit, il faut absolument que je revienne vers la mer. Seulement pas là où est son bateau. Ve'alcha el svatayam, elle arriva à se faufiler jusqu'à ce qu'elle revienne au rivage, mais à un autre rivage, pas du tout là où ils avaient accosté, où était son bateau. Elle se retrouve à nouveau maintenant sur la plage, près de la mer. Ve'yasha milanot shel perot, comme on l'a expliqué, près du rivage, il y avait des forêts. Et donc, elle trouva heureusement un endroit où il y avait des arbres fruitiers. Veyash Vacham se dit, au moins là j'ai de quoi manger, je vais rester là. Ubayom Aita Olechet Etzelayam, dans la journée, elle se mettait sur le rivage, sur la plage, pour voir s'il y a un bateau qui pourrait la repérer et l'emmener. parce que apparemment elle ne sait même pas que si, comme l'a découvert son mari, que à l'intérieur du territoire c'est oui habité, mais elle n'en est pas consciente. Donc elle cherche à quitter cet endroit, à trouver un bateau qui arrivera à la sauver. En attendant, elle se nourrissait des fruits. Et la nuit, elle avait peur des bêtes sauvages, elle montait sur un arbre pour se cacher, afin d'être protégée des bêtes sauvages. Évidemment, le texte lui-même est très intéressant. On va s'arrêter là, mais l'histoire, bien sûr, est très, très, très mystérieuse, complètement codée, et avec l'aide du maître du monde, on va décoder cette histoire. Alors, on remarque quelque chose d'intéressant, comme je l'ai expliqué, ce sont des personnages authentiques qui savent très bien qu'on ne peut pas passer sa vie à attendre le Mashiach et attendre que le maître du monde nous prenne en charge, c'est à nous de faire quelque chose. C'est vrai, ils comprennent la difficulté, ils savent très bien que le monde n'est pas encore prêt à accepter l'idée de l'unité entre Dieu et son monde, entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, mais de temps à autre, ils font un essai. Et donc, après un long moment passé sur mer, ils décident d'accoster à nouveau et de revenir sur terre. Mais ils savent que le monde n'est pas encore prêt à cette union. Et c'est ce à quoi fait allusion le texte, l'histoire, en nous disant que dès qu'ils ont accosté, l'épouse, la fille de l'empereur, enlève sa bague et la redonne à son mari, le fils du roi. Quel est le décodage? Qu'est-ce qui se cache? C'est que justement, finalement, c'est elle qui prend conscience avant son mari. J'enlève ma bague. C'est-à-dire, il faut bien qu'on soit conscient, toi et moi, que l'unité n'est pas encore possible dans ce monde. Ça veut dire, on fait des essais, on avance, on a l'honnêteté et l'authenticité de ne pas finalement se droguer de théorie, c'est-à-dire d'imaginer que sous prétexte qu'on est unis dans la Torah, alors ça y est, on est unis dans ce monde aussi, ce que malheureusement, beaucoup de ceux qui, d'une certaine manière, vivent dans la Emouna, vivent dans l'étude, vivent dans la prière, finissent par prendre leur rêve pour une réalité et se désintéressent complètement à ce monde en se disant que bon, ben, dans le monde théorique dans lequel ils vivent, tout est parfait, tout est un, tout est beau, et ils oublient complètement que ce monde, lui, n'évolue absolument pas et ils ne cherchent pas à l'améliorer, à le réparer. C'est ce qui est malheureusement le cas de 90% des gens croyants qui finalement tournent le dos à ce monde et vivent dans une bulle théorique, mais eux justement sont des croyants authentiques et donc de temps en temps reviennent sur terre. Mais justement leur authenticité, et surtout, comme j'ai commencé à l'expliquer, la fille de l'empereur, qui justement représente la dimension matérielle, qui sent très très bien et plus fortement encore que son mari, que ce monde n'est pas encore prêt, elle enlève sa bague, comme pour que lui et elle se rappellent, attention, il n'y a pas encore d'unité entre toi et moi dans ce monde, ne jouons pas la comédie, n'essayons pas de voir que ça y est, ce monde est parfait. En vérité, à quoi cette notion me fait penser? À tous les faux messianismes, c'est-à-dire que tous ceux qui se précipitent et veulent imposer leur fantasme et leur illusion à ce monde. Ça y est, le Mashiach est là, le Mashiach est là. On a eu le coup il y a une fois déjà il y a 2000 ans, et malheureusement, on sait que tout au long de notre histoire, il y a constamment des rêveurs qui s'imaginent que ça y est, le Mashiach est là. Et même quand tous les signes montrent qu'il n'est pas là, ils continuent à s'entêter et à vouloir persuader le monde entier que leur folie est une réalité, que oui, le Mashiach est là. Et dans chaque génération, on a ce genre de folie où tout d'un coup, un groupe de croyants, et c'est le cas chez nous aussi, bien sûr, à l'intérieur du peuple juif, s'attachent à un maître et veulent absolument en faire le Mashiach. Et même si tous les signes prouvent que ça ne peut pas être le Mashiach, ils continuent à dire que oui, c'est le Mashiach. Et là, on a affaire à quelque chose d'absolument fabuleux, dès qu'elle revient sur Terre, pour ne pas tomber dans le piège, je veux dire, ça y est, on est unis, même sur Terre, puisque bien sûr la bague fait allusion au mariage, donc à l'union entre elle et lui, l'union entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, elle enlève sa bague, elle lui dit non, je te la redonne, dans ce monde on n'est pas encore unis, le Mashiach n'est pas encore là, on n'a même pas encore commencé le commencement du commencement d'essayer de transformer ce monde pour qu'il accepte l'unité entre Dieu et son monde, soyons honnêtes, on a encore un très 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 long travail devant nous. Maintenant, un autre décodage, pourquoi n'arrive-t-il pas à un endroit où tout de suite on voit que l'endroit est habité? Pourquoi l'histoire nous dit-elle qu'ils sont arrivés dans un endroit où ils étaient persuadés que finalement il n'y avait personne, il n'y a que des forêts, donc des endroits inhabités? Là aussi, c'est pour nous faire comprendre l'honnêteté, l'authenticité. C'est-à-dire qu'ils vont lentement, prudemment, ils ne se précipitent pas. C'est vrai, ils sont revenus sur Terre, mais pour l'instant, ils sont sur Terre dans un endroit qui n'est pas encore habité. L'idée est fabuleuse. Ce que Rabbi Nachman veut nous faire comprendre, c'est que la délivrance, tu ne la construis pas à coup de rêve, à coup de fantasme. C'est vrai, tu as l'honnêteté de quitter la mer, tu as l'honnêteté de te dire, allez, on essaye de remettre nos pieds sur Terre, mais doucement. Tu n'arrives pas directement dans un endroit qui est peuplé, c'est-à-dire la véritable Terre. Il va falloir passer étape par étape. Ici, encore une fois, ce conte nous apprend que la délivrance se construit d'une manière sûre mais patiente, avec beaucoup de patience, avec beaucoup d'endurance, avec beaucoup de courage. Ne prends pas tes désirs pour des réalités. Il y a un long et pénible et douloureux travail à réaliser jusqu'à ce que finalement tu puisses arriver à... jusqu'aux hommes et leur parler de la délivrance, leur parler de l'unité, leur parler du Mashiach. Et malheureusement, on sait que toute la Torah ne parle que du contraire. C'est-à-dire que dès le tout début de l'histoire, on a dû faire face à un faux messianisme qui va être ce qui va pourrir toute l'histoire humaine. Puisque comme on l'a déjà expliqué des milliers de fois, le serpent en hébreu, Nahash, a la même valeur numérique que le mot Mashiach. Ça veut dire que finalement, la première faute de Adam et Ève, qui symbolise finalement le problème de toute l'histoire humaine, c'est cette précipitation vers un Messie qui, en vérité, n'est qu'un serpent et qui se fait passer pour un Messie. Parce que pourquoi on l'appelle un serpent? Parce qu'à chaque fois que, dans l'histoire, avant que le monde soit réellement prêt, on se précipite pour désigner quelqu'un en tant que Messie et on veut absolument se persuader que ça y est, la délivrance est là, finalement, on ne fait rien pour véritablement la construire puisqu'on se remet à un fantasme qui est censé nous prendre en main et nous prendre en charge. Et c'est ça la véritable faute de Adam et Chava, d'avoir voulu précipiter la venue du Mashiach. Et comme explique le Hari HaKadosh, normalement de cet arbre-là, ils auraient dû en manger uniquement à la fin du Shabbat, le quatrième repas, le repas de Motsé Shabbat. Mais eux se sont précipités pour manger de cet arbre-là plus tôt. Non seulement pas pendant le Shabbat lui-même, mais encore pendant le... avant le Shabbat, le jour où ils ont été créés, le vendredi, selon les codes de la Torah, ils ont été créés le sixième jour, le vendredi, ils étaient censés manger de cet arbre-là à la fin du Shabbat. Non seulement ils n'ont pas attendu le Shabbat, mais ils n'ont même pas... ils ont mangé cet arbre-là encore en semaine. C'est-à-dire qu'on comprend le décodage d'une manière extraordinaire, cette précipitation, ce faux messianisme qui pourrit l'histoire. Et pas seulement dans le domaine religieux, dans tous les domaines. Toutes ces philosophies, tous ces idéaux qui ont fait croire aux hommes que ça y est, si on s'accroche à ça, on va s'en sortir. Et c'est à chaque fois un nouveau mensonge qui nous amène vers des destructions, des drames et des catastrophes, pire encore. Et donc là, on voit que le message de l'histoire est extraordinaire. Patience. Ayez le courage de reconnaître que pour l'instant, le monde n'est pas encore prêt. Partez sur mer. Mais d'un autre côté, vous êtes honnête, vous revenez de temps en temps sur Terre pour voir comment le monde évolue. Mais même quand vous revenez sur Terre, vous n'allez pas tout de suite sur une place publique et vous n'allez pas commencer à hurler « le Mashiach est là, le Mashiach est là ». Non ! D'abord, vous arrivez dans un endroit où il n'y a personne pour faire un test avec ce monde, comment il est. Et l'honnêteté inimaginable de la fille du roi qui prend sa bague et qui la remet à son mari. C'est comme si on n'est plus marié parce que... On refuse de laisser le fantasme prendre le dessus sur la raison. On voit et on comprend que finalement, notre travail n'a pas encore commencé. Il se réalisera qu'à la fin de cette histoire, comme on le verra. Et quel est le décodage maintenant ? Elle s'endort. Alors là aussi, pourquoi elle s'endort et pas lui ? Pourquoi les deux ne s'endorment pas ? N'oublions pas qu'elle représente la dimension matérielle. Et qu'est-ce que dit le roi David au moment de la délivrance finale dans les psaumes ? Azaïnu kecholmim. À ce moment-là, nous comprendrons que nous avons passé toute l'histoire à dormir. Nous avons rêvé. Ça veut dire quoi ? Finalement, la délivrance, c'est le véritable réveil de l'homme, le véritable réveil de l'humanité. L'exil, comme explique nos maîtres dans le Talmud et dans quantité d'autres endroits, correspond à la nuit au moment où tu dors. Ça veut dire que finalement, tu perds ta conscience, tu perds ton intelligence. Quand quelqu'un dort, il est dans le fantasme total. Pourquoi s'endort-elle ? Parce que justement, elle est en train de vivre, elle qui est la fille de l'empereur qui remonte à la dimension matérielle, elle est en train de vivre le fait que le monde est encore dans un fantasme total, dans un rêve total. Le monde n'a pas encore pris conscience de la réalité vraie. Tout le monde rêve. Les uns croient en ça, les autres croient en autre chose. Chacun a son messie, chacun a son rêve, chacun a son espoir. Mais finalement, personne ne s'occupe de la réalité vraie. Et elle, justement, s'endort comme pour vivre et comprendre que le monde n'est pas encore prêt. Nous sommes tous en train de dormir. C'est extraordinaire le message qu'il y a ici. Et encore une fois, on comprend ce qu'est un maître authentique, puisqu'au travers de ces deux personnages, Rabbi Nachman est en train de nous décrire finalement l'identité d'un maître authentique. Ça veut dire que quand elle s'endort, elle est en train d'accepter finalement la réalité telle qu'elle est. Nous sommes tous en train de dormir. On est tous dans des fantasmes et dans des illusions. Personne n'a encore été capable de se réveiller dans ce monde et de voir la vérité vraie, la réalité vraie. On est tous en train de dormir. Et donc c'est ce qui se passe. Mais lui, il est à ses côtés, lui représente la dimension spirituelle. La dimension spirituelle, d'une certaine manière, est au-dessus de ce monde. Elle n'arrive pas, cette dimension, à transformer ce monde, puisque comme on le verra dans l'histoire, seule la fille de l'empereur peut vraiment faire la réparation, car comme on le sait, le Mashiach ne viendra pas d'en haut, mais viendra d'en bas. Ce n'est pas quelqu'un de spirituel qui pourra changer le monde, c'est quelqu'un qui, au départ, est, on pourrait dire, imprégné de la dimension matérielle, qui est de ce monde, et dans ce monde, et avec ce monde. Seulement lui peut véritablement changer ce monde. Et comme on le verra, jusqu'à la fin de l'histoire, que finalement la délivrance viendra d'elle et pas de lui. Donc lui ne s'endort pas, parce que lui de toute façon est au-dessus de ce monde. Il représente la dimension spirituelle. Donc il a d'une certaine manière un avantage, c'est qu'il n'est pas soumis à toutes les pressions de ce monde, mais de l'autre côté il a un défaut, c'est que n'étant pas soumis aux pressions de ce monde, il ne peut pas changer ce monde non plus. C'est la raison pour laquelle elle lui a remis la bague, comme pour dire « on n'est pas marié ». Parce que moi, je ne suis pas encore prête. La preuve, regarde, je vais m'endormir. Dès que je mets les pieds sur terre, je m'endors. Je redeviens comme tout le monde. Et toi, même si tu es resté éveillé, de toute façon, tu es complètement au-dessus de ce monde. Tu es dans ta tour d'ivoire et tu ne peux rien faire pour changer ce monde. C'est seulement notre union ensemble et surtout mon action qui pourront changer ce monde. Donc lui, il est à ses côtés, il attend qu'elle se réveille. Pourquoi, quand il voit qu'elle va se réveiller, il remet la bague à ses côtés ? Pourquoi ne lui met-elle pas la bague au doigt ? Parce que lui, quel est le décodage extraordinaire ? Il pense que quand elle va se réveiller, qu'elle va sortir de son fantasme, elle va représenter justement ceux qui dans ce monde prennent conscience de la réalité vraie, et sont maintenant capables, une fois s'être nettoyés, s'être échappés du fantasme et de l'illusion, qu'ils vont pouvoir maintenant changer ce monde. Et donc, il met la bague à ses côtés. Quel est le décodage ? Elle va se réveiller, elle va enfin se libérer de toutes les illusions qui endorment l'humanité tout entière, Et elle-même prendra la bague, va la mettre au doigt, c'est-à-dire qu'elle-même va décider que maintenant, ça y est, on peut construire l'unité. Mais quelle a été son erreur ? L'erreur de tous les êtres très spirituels qui vivent complètement au-dessus de ce monde et qui, eux aussi, n'ont pas justement cette capacité de mesurer, de comprendre, d'analyser véritablement la situation de ce monde et qui aussi prennent leurs désirs pour des réalités. C'est vrai, elle va se réveiller. Mais quand elle va se réveiller, elle ne va pas dire « Ah, je mets ma bague au doigt parce que maintenant, ça y est, je sais que je peux changer ce monde. » Elle va dire à ce moment-là « Allez, viens, on retourne maintenant au bateau. » Ça veut dire que je ne me sens pas encore prête. La preuve, regarde, dès que j'ai mis les pieds sur terre, je me suis endormi comme tout le monde. J'ai refantasmé comme tout le monde. Je suis reparti dans le rêve et dans l'illusion comme tout le monde. Donc, je ne mérite pas encore la bague dans ce monde. Elle pensait que la bague était toujours dans la poche de son mari et qu'il lui redonnerait la bague au moment où il serait sur le bateau. Parce que dans la Torah, effectivement, ils peuvent être unis, mais pas dans ce monde. Et lui a pris ses désirs pour des réalités. Il pensait que quand elle allait se réveiller, elle allait dire « Voilà, je suis le Mashiach, je vais prendre la bague, je vais la mettre, je vais construire l'unité. » Et finalement, elle s'est levée pour repartir sur mer en se disant « Je ne suis pas encore prêt à être le Mashiach. » Ça, c'est un vrai Mashiach. Quelqu'un qui constamment dit « Je ne suis pas encore prêt. » Quelle est la preuve qu'un Mashiach est un vrai Mashiach? Quand il dit « Non, je ne peux pas être le Mashiach. » Ça a été le cas de Moshe. Quand Hachem lui dit « Viens, je vais faire le toi le libérateur », qu'est-ce qu'il répond ? « Non, prends n'importe qui, mais pas moi. » Comment qu'on peut savoir qu'un Mashiach est un vrai Mashiach quand il est le dernier à dire qu'il est le Mashiach ? Et même si le monde entier dit qu'il est le Mashiach, il dit « Non, je ne suis pas le Mashiach. » Ça, c'est le signe d'un vrai Mashiach. Mais ça, son mari n'avait pas compris. Elle est un vrai Mashiach. Elle se réveille, elle dit « Allez, on retourne sur mer, je ne suis pas prêt. » La preuve, regarde, j'ai dormi comme tout le monde. Je ne suis pas mieux que les autres. Et il repart sur le bateau. Ils ont oublié la bague. Et là, tout se complique. Finalement, qui est le fautif ? À cause de qui la bague est perdue ? Donc, l'unité est perdue. Au point que cette bague perdue va amener à ce qu'eux-mêmes vont se séparer maintenant pendant des années, des siècles et des millénaires. Ils ne se retrouveront qu'à la fin de cette histoire. Qui est le fautif ? Le fils du roi. Qu'est-ce que tu poses la bague près d'elle ? Ou tu la gardes dans ta poche ou tu lui mets au doigt ? Tu es fou ou quoi ? Oui, le monde religieux est fou. Effectivement. Le monde religieux est fou. Parce qu'il prend toujours ses désirs pour des réalités. Il n'a pas cette sagesse d'être capable de mesurer la réalité telle qu'elle est. Quelle a été l'erreur du fils du roi ? Ah, elle va se réveiller, elle va dire « Je suis le Mashiach ». Où est ma bague ? Elle va la prendre, la mettre au doigt. Allez, ça y est, on construit le monde. Lui, ce qu'il ne sait pas, c'est quand elle va se réveiller, elle va dire « Je suis nul, je suis pas le Mashiach. Allez, viens, on retourne dans notre bateau, on retourne sur l'océan. » C'est-à-dire, on a besoin de se préparer encore beaucoup plus dans la Torah. On n'est pas encore prêt, toi et moi. Et lui était sûr que ce réveil allait être le signe de la délivrance. Quand elle allait sortir de son rêve, comme dit le roi David, on se rendra compte qu'on était tous en train de dormir. Et finalement, ils ont laissé la bague. Ils ont perdu l'unité et ils vont se perdre complètement. Qu'est-ce que Rabbi Nachman nous révèle ici ? Un secret de folie. Les responsables, bien sûr, ce n'est pas une responsabilité méchante et criminelle qu'à Dieu ne plaise, car il s'agit de gens extraordinaires, tous ceux qui s'accrochent à Dieu dans toute l'histoire humaine. Mais d'un autre côté, ils font tous une très très grave faute. C'est qu'ils ne sont pas capables d'apprécier, de comprendre ce qui se passe sur terre. Et à cause de cette incapacité de comprendre ce qui se passe sur terre, eh bien finalement l'unité dans ce monde se perd en grande partie à cause d'eux. C'est le fils du roi qui a perdu la bague. C'est pas elle. Parce qu'elle lui avait confié la bague, elle ne pouvait pas imaginer que cet idiot l'avait mise à côté d'elle. Et en plus que quand il la voit se lever et repartir vers le bateau, qu'il lui dit même pas hey, « Hé, la bague !» Lui-même, il a oublié qu'il avait posé la bague par terre. Ça veut dire quoi le décodage ? La bague est le symbole de l'unité entre l'homme et la femme. Tu as mis la bague sur terre, tu as mis l'unité dans ce monde. Mais c'est un fantasme. L'unité, elle doit être à la base, elle doit être dans le doigt de ton épouse, pas par terre. C'est encore une fois un faux messianisme. Mais s'imaginer que ça y est, l'unité dans ce monde, le Mashiach est là, ça y est, tout va bien. Non, non, pas du tout. Tout va très 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 mal. Et l'histoire a prouvé qu'à chaque fois que dans l'histoire, on avait désigné un Messie, le monde n'a jamais été aussi mal après que depuis qu'on a désigné un Messie. Mais ça, ceux qui posent la bague dans ce monde, qui croient que l'unité est dans ce monde, ne veulent pas le voir et continuent à dire le Mashiach est là, le Mashiach est là. Et ça fait des millénaires que ça dure, chez nous comme chez les autres. C'est ça la grande maladie de l'homme. Au lieu de travailler pour transformer le monde, tu veux imposer tes désirs à la réalité. Sans travailler, t'as posé la bague par terre, ça y est, le Mashiach est là. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Pas du tout. Et donc ils repartent pour le bateau, et tout d'un coup, évidemment, c'est elle, le moteur de tout, elle se rend compte, mais où est la bague? Je l'ai posée sur le sol en étant sûr que tu allais être le Mashiach, mais finalement, je ne m'attendais pas à ce que tu me dises qu'on retourne sur le bateau. Je ne sais pas où est la bague. Elle va la chercher. Et il retourne la chercher. Et il se perd. Et elle aussi se perd. Et finalement, ils se perdent l'un et l'autre. Le décollage est absolument fabuleux, mais lourd à supporter. Finalement, à force de vouloir se précipiter et d'être sûr que ça y est, la délivrance est là, on ne fait que la retarder. On a eu une infinité de cas dans notre histoire. Prenons l'exemple, malheureusement le plus célèbre de tous dans l'histoire ancienne, Rabbi Akiva. Rabbi Akiva était pourtant le plus grand maître de tous les temps et l'est jusqu'à aujourd'hui. Comme le disent nos maîtres, c'est le Moshe Rabbeinu de la Torah orale. Il est, d'après le Ari Akadosh, une partie de l'âme de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a donné la Torah écrite, Rabbi Akiva a donné la Torah orale, donc un maître d'une grandeur inimaginable. Le Moshe Rabbeinu de la Torah orale. Et pourtant, il a désigné lui aussi un Messie, Bar Korba. Il s'est trompé. Pas forcément, il y a des machloquettes, des discussions entre les maîtres, est-ce qu'il s'est trompé complètement ou bien Bar Korba pouvait être le Mashiach, seulement lui-même, Bar Korba, a dérapé en plein parcours. C'est pas le sujet, mais quoi qu'il en soit, il n'a pas été le Mashiach. Mais Rabbi Akiva était persuadé que Bar Korba était le Mashiach, au point que nos maîtres nous enseignent qu'il courait, Rabbi Akiva, le maître, devant Bar Korba qui était sur son cheval. Et Rabbi Akiva disait, c'est le Mashiach, c'est le Mashiach. Parce que si Rabbi Akiva dit que Bar Korba est le Mashiach, qui ne va pas le suivre, qui ne va pas le croire? Et finalement, Bar Korba a amené une catastrophe inimaginable sur le peuple juif. Pire encore que tout ce qui avait précédé. La destruction de Bétar est le véritable commencement de l'exil des Juifs en dehors d'Israël par les Romains et des décrets inimaginables contre la Torah. Finalement, à vouloir absolument désigner Bar Korba comme Mashiach, Rabbi Akiva a amené une catastrophe pire que toutes celles qui avaient précédé sur notre peuple. Au point que certains commentaires, certains maîtres, comme le Rava, par exemple, pour ceux qui étudient et qui le connaissent, ira jusqu'à dire que l'une des raisons pour laquelle Rabbi Akiva est mort d'une manière tellement horrible, c'est pour, d'une certaine manière, payer la faute incroyable d'avoir cru que Bar Korba pouvait être le Mashiach et avoir amené de telles catastrophes sur le peuple juif. Parce que les Romains n'ont pas pardonné cette erreur et ont été d'une cruauté inimaginable quand ils sont arrivés à détruire Bar Korba et son armée. Qu'est-ce qui s'est passé? Exactement ce que Rabbi Nachman nous révèle dans cette histoire. Rabbi Akiva a pris la bague et il l'a posée dans ce monde en se disant « ça y est, l'heure de l'unité est là ». Mais tu as mal évalué la situation, tu as mal évalué le personnage. La différence entre Bar Korba et la fille de l'empereur, c'est que Bar Korba n'était pas un homme authentique. À force de voir Rabbi Akiva dire qu'il est le Mashiach, il a fini par le croire lui aussi. Et il s'est pris pour le Mashiach. Par contre, dans l'histoire fabuleuse de Rabbi Nachman, on voit que la fille de l'empereur, qui est le vrai Mashiach, elle a l'honnêteté de dire « non, je ne suis pas encore prêt. Je suis désolé, on retourne sur le bateau. Je ne suis pas encore prêt à transformer ce monde. » Mais à cause de son mari, la bague a été perdue et finalement ils vont se perdre. De la même manière que c'est le monde spirituel qui a faussement misé sur le Mashiach, Rabbi Akiva sur Bar Korba, là à nouveau c'est le monde spirituel qui a à nouveau fait la faute de faussement miser sur quelqu'un qui pour l'instant en tous les cas n'est pas le Mashiach, la fille de l'empereur. Et ça va amener des catastrophes encore beaucoup, beaucoup plus grandes. Ils vont être séparés cette fois-ci jusqu'à la fin de l'histoire. Les messages sont fabuleux. Merci, 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 merci au maître du monde de nous donner les clés pour décrypter cette histoire qui pendant des siècles était complètement fermée et qui aujourd'hui s'ouvre et se décode parce que le temps est arrivé. Merci au maître du monde et écoutez, réécoutez la manière dont j'explique cette histoire parce que toutes les clés de la délivrance se trouvent dans ses commentaires et ses explications. Merci au maître du monde.